Chaque année sur notre planète, ce sont 10 000 personnes qui disparaissent sans jamais être retrouvées. Ce sont plus de 400 000 hommes, femmes, enfants qui sont victimes d'homicides volontaires, assassinés par un proche ou un inconnu. Ce sont donc autant d'affaires criminelles et mystérieuses qui se retrouvent à faire la une des infos, des discussions sur Internet, des journaux télévisés, des flashs radio, avec pour seul objectif connaître la vérité. Une vérité qui, malgré les apparences, n'est jamais très loin.
Le 22 septembre 2019, aux alentours de 11h du matin, un homme qui pêchait tranquillement sur la rive est du port de Victoria à Hong Kong fait une macabre découverte. Celle d'un corps, un corps nu, flottant à 100 mètres du pic du Diable, un sommet du district de Sai Kung. Le cadavre est celui de Shan Yin Lam, une adolescente de 15 ans, portée disparue depuis maintenant 48 heures. Selon les enquêteurs, elle aurait mis fin à ses jours, l'autopsie préliminaire ne montrerait aucune trace de violence. Mais pour une partie de la population hongkongaise, la police ment. Cette mort est très étrange et soulève de nombreuses questions. Shan Yin Lam a-t-elle vraiment mis fin à sa vie, comme l'atteste l'enquête, ou a-t-elle été assassinée par les autorités de Hong Kong? Parce que ce mystérieux décès intervient alors que des manifestations violentes font rage dans le pays. C'est aussi les réseaux sociaux qui vont s'emparer de l'affaire, mettant en avant plusieurs spéculations comme celles concernant les images de vidéosurveillance. 16 clips vidéo qui montrent la jeune fille errant dans son école quelques heures avant sa mort. Des images qui, selon certains, ne montreraient pas toute la vérité. Avant d'arriver au jour de la disparition de cette jeune fille, et surtout au jour où on a malheureusement retrouvé son corps, je pense qu'il est très important de s'attarder sur le contexte de la disparition. Nous sommes à Hong Kong, ancienne colonie britannique, c'est un territoire indépendant situé au sud-est de la Chine, une région de 7 millions d'habitants, dont la superficie totale est à peu près de 1100 km², soit environ 10 fois Paris. Une région en proie depuis plusieurs années à des crises politiques. En 2014, je pense que vous n'êtes pas passé à côté de cette actu, il y a eu des manifestations rebaptisées à l'époque « Révolution des parapluies », en raison, on a tous vu ces images, de l'utilisation de parapluies par des manifestants pour se protéger des gaz lacrymogènes envoyés par la police. Des manifestations menées par les pro-démocraties qui s'opposaient en fait au gouvernement chinois et à son projet, à l'époque, de limiter la portée du suffrage universel pour l'élection du chef de l'exécutif de Hong Kong, qui était prévu en 2017. Et depuis, ce projet a été avorté. En 2019, rebelote, il y a eu de nouvelles manifestations, des manifestations encore plus violentes, avec un million de personnes dans les rues, qui contestent en fait le projet de loi sur l'extradition vers la Chine, un projet voulu par l'exécutif local qui autorise Hong Kong à extrader les personnes résidant sur son territoire vers d'autres régions comme la Chine continentale. En fait, ce projet dit la chose suivante: quiconque, directement ou indirectement lié à une activité jugée criminelle par la Chine continentale, résidant ou étant de passage à Hong Kong, pourra être arrêté, extradé et jugé en Chine continentale. Une mesure inédite qui concerne aussi les territoires de Macao ou Taïwan. Et les pro-démocraties se soulèvent contre ce projet. Il y a vraiment une rupture à ce moment-là entre la police, l'État et la population, à tel point qu'une partie des habitants accuse la police de tuer des manifestants. La peur est telle, je pense que vous avez forcément vu ces images, que certains partaient manifester en laissant un testament. D'ailleurs, à ce moment-là, la hausse des suicides et des cadavres est venue alimenter ces suspicions. Certains criaient leur nom, écrit un message au moment où il se faisait interpeller. Le message était le suivant: je ne veux pas me tuer, s'il m'arrive quelque chose, ce ne sera pas un suicide. Parmi ces manifestants, qui étaient pour la plupart des étudiants, il y avait Shan Yin Lam. Shan Yin Lam, c'était une adolescente de 15 ans, également connue sous le nom de Christy Shan. C'est comme ça que la plupart de ses amis l'appelaient et c'est comme ça que je vais l'appeler durant cette vidéo. Elle mesurait environ 1m60, elle était brune, elle avait les cheveux au carré et les yeux marrons. Et cette jeune adolescente, d'après ce que j'ai pu trouver, a vécu dans un climat familial assez compliqué, puisque ses parents se sont séparés lorsqu'elle avait 6 ans, ce qui a engendré chez elle des antécédents de fugue. Elle a notamment fui le domicile de sa mère à plusieurs reprises. C'est pour cette raison, en partie, qu'elle a été placée dans un foyer pour filles, et donc, au moment de sa disparition, elle ne vit pas chez sa mère, ni chez son père, elle vit dans ce foyer. Un endroit qui, encore une fois d'après mes recherches, lui aurait permis de retrouver une certaine stabilité. Elle s'y sentait bien, elle avait quelques amis, mais malgré ça, eh bien, elle avait des phases de rechute, des phases de dépression assez sévères, et c'est pour cette raison qu'elle a fréquenté à plusieurs reprises l'hôpital Pokwotong Puiking Memorial College à Hong Kong, où on lui a diagnostiqué des troubles obsessionnels compulsifs. Avec provocation, elle devait prendre des médicaments et notamment des anxiolytiques. Christy, quelques jours seulement avant sa disparition, a commencé un cursus au Youth College, qui est rattaché au Vocational Training Council, plus communément appelé le VTC. C'était une fille assez sportive, elle pratiquait la natation, elle avait d'ailleurs remporté des prix dans des compétitions de natation inter-école. Elle avait reçu aussi une formation régulière en plongée et était, quelques années auparavant, membre de l'équipe de plongée, donc vous le voyez, plutôt très à l'aise dans l'eau, et ça, c'est important pour la suite de l'histoire. Au moment de son décès, en 2019, elle travaillait également à temps partiel dans un restaurant. Quand les premières manifestations ont commencé, en juin 2019, Christy et ses amis étaient de la partie. Ils sont descendus dans la rue pour exprimer leur mécontentement contre ce projet de loi, mais d'après ce que disent les amis et la famille, c'était fait de façon plutôt pacifique. Ils n'étaient pas en fait en première ligne, ils ne faisaient pas partie des violences, j'ai envie de dire. Par exemple, Christy, elle, s'était contentée de distribuer des tracts. C'est durant cette période que l'attitude, que le comportement de Christy va radicalement changer selon ses amis. En fait, à partir de là, elle serait devenue plus agitée, plus perturbée. Elle se sentait suivie et s'inquiétait beaucoup du sort de son petit ami qui avait été arrêté quelques semaines plus tôt pour vente de cannabis. Et pour la première fois, eh bien, elle a raconté au psychiatre qu'elle entendait des voix dans sa tête, chose qu'elle aurait également dite à sa mère. C'est aussi tous ces éléments qui vont, vous allez le voir, entraîner des questions par la suite, mais on y reviendra. Il est important de noter deux faits marquants qui ont eu lieu avant sa disparition et la découverte de son corps. Le premier intervient début août 2019, soit un mois et demi avant sa mort. Une vidéo filmée d'un téléphone portable montre Christy dans une gare, assise sur le sol, semblant complètement désemparée, prétendument, c'est ce que diront les témoins, à cause de son petit ami. Elle est en pleurs, elle crie, hein, elle est dans tous ses états, le tout sous les regards perplexes des passants. Quelques jours après cet événement, le 10 août 2019, précisément, près d'un poste de police sur Nathan Road, une rue commerçante animée à Hong Kong, une pluie de gaz lacrymogène tombe et plusieurs passants qui font leur course à ce moment-là sont pris au piège. C'est le cas de Shan, qui publiera une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle on la voit se plaindre que la police les a volontairement visés alors qu'elle faisait tranquillement du shopping de son côté. On la voit d'ailleurs sur cette image, les yeux rouges et gonflés. Figurez-vous que deux jours plus tard, deux jours après cette vidéo, elle est arrêtée. Et placée en détention pour mineur, elle est accusée d'avoir dégradé du matériel et d'avoir donné un coup de pied à un agent de l'établissement correctionnel de Tong Phuc, où son petit ami était emprisonné. Elle restera dans ce centre du 12 août au 11 septembre 2019. Elle devait, écoutez bien, comparaître devant un tribunal le 20 septembre 2019, soit le lendemain de sa disparition. C'est à 14h45, le 19 septembre 2019, que tout va basculer. Christy envoie un message dans le groupe Messenger qu'elle partage avec ses amis en leur disant qu'elle part de l'école, qu'elle rentre chez elle au foyer. C'est le dernier message de Christie, puisqu'après ça, eh bien, plus personne n'aura de ses nouvelles. Sa famille appelle la police le 21 septembre pour signaler sa disparition. Son téléphone portable et des cahiers lui appartenant seront retrouvés dans une station de métro, mais aucune trace de l'adolescente. Aucune trace jusqu'au 22 septembre, aux alentours de 11h du matin. Un pêcheur qui était tranquillement sur son bateau dans la mer près de la digue de Tsung Kwan Ho, dans l'est de Hong Kong, aperçoit ce qu'il pense être un corps féminin, nu, en train de flotter. La police s'est alors prévenue, le corps est rapidement emmené et une autopsie est pratiquée. Les résultats de cette autopsie tombent quelques jours plus tard, le 9 octobre. Il s'agit bien du corps de Shan Yin Lam. Et son corps, c'est ce que dit l'autopsie, ne présente aucune trace de violence. Les enquêteurs concluent alors que Christie a mis fin à ses jours en se noyant toute seule. Et ça, c'est bizarre pour le grand public. Les gens n'y croient pas. La question se pose, comment est-il possible qu'une jeune fille de 15 ans, très bonne nageuse, je vous en ai parlé, qui faisait de la plongée, se soit donné la mort, qui plus est, dans la mer, sans moyens extérieurs. En plus de ça, eh bien, elle aurait pris le temps de se déshabiller. On n'a jamais retrouvé ses vêtements. Ça, c'est louche pour beaucoup de gens, mais surtout pour beaucoup d'étudiants, pour beaucoup de jeunes, pour beaucoup d'élèves de son école. Pour eux, la police ment. Ils vont encore plus loin. Shan a été éliminée parce qu'elle participait aux manifestations, parce qu'elle contestait le gouvernement. La rumeur est telle sur les réseaux sociaux que certains se demandent s'ils ne seront pas les prochains. Ce qui va jeter de l'huile sur le feu, c'est qu'on apprend l'identité du corps retrouvé seulement le 11 octobre. Et qu'en plus de ça, Shan a été incinérée la veille, le 10 octobre, immédiatement après l'autopsie. Voici ce qu'a dit la police concernant la découverte du corps et le fait qu'elle soit incinérée. Des investigations ont été lancées, divers aspects appréhendés, la famille a été tenue informée. L'enquête est toujours en cours. Et jusqu'à présent, aucun élément suspicieux n'est apparu. C'est tout. En gros, vous le comprenez, on découvre un corps. L'identité n'est révélée que le 11 octobre, au moment où tout est fini, où elle a été incinérée, basta, on n'en parle plus. Mais cette déclaration de la police ne change absolument rien, la confiance entre les autorités et une partie de la population est rompue. On doute, on voit bien qu'elle a été incinérée le lendemain de son autopsie, c'est trop rapide. Pour les gens, ça cache quelque chose. D'autant qu'un médecin indépendant a lu le rapport d'autopsie qui conclut à une noyade. Et figurez-vous que ce médecin s'est aperçu que Shan, que Christie, ne présentait pas les symptômes habituels d'une noyade. De la mousse sortant de la bouche et du nez. De l'eau dans les poumons et l'estomac. Mais il y en avait très peu finalement. Beaucoup moins qu'un noyé habituel, c'est ce que dit le médecin. Ce qui voudrait dire, vous le comprenez, qu'elle serait décédée avant d'être immergée dans l'eau. Pour ses amis, pour ses proches, Christie n'avait pas d'envie suicidaire. C'est vrai qu'elle était un petit peu perturbée ces derniers temps, mais elle avait des projets. Projets qu'elle avait d'ailleurs évoqués dans son journal intime qu'elle a tenu pendant son incarcération. Elle avait donné un titre d'ailleurs à son journal intime. Elle avait écrit « La fille que je veux être dans 3 ans ». Quel genre d'adolescente irait mettre fin à ses jours si elle se projette déjà dans 3 ans. C'est ce que disent ses proches. Toute cette confusion ne va pas du tout s'arranger avec ce qui va suivre. Les étudiants qui font partie donc du même établissement que Christie réclament de voir les images de vidéosurveillance de l'école parce qu'ils savent. Ils savent que dans chaque recoin, il y a une caméra. Ils savent que l'école est hyper surveillée. La demande est faite le 15 octobre, mais le campus ne va dévoiler que des images partielles. Pas des images continues, des images tronquées, des petits bouts. Et ça, eh bien ça va provoquer la colère des étudiants, qui vont, pour se faire entendre, vandaliser l'école, provoquant la suspension de tous les cours. L'idée est que la direction se bouge et dévoile toutes les images. Quelques jours plus tard, l'école craque et dévoile tout. Et c'est là qu'on découvre donc des images beaucoup plus longues, 16 clips vidéo, quasiment 1h30 d'images sur lesquelles apparaît la jeune Shan Yin Lam. Mais vous allez voir que ces images vont être très commentées. Alors qu'est-ce qu'on y voit sur ces images ? Eh bien, on y découvre une Christie perdue, Une Christie qui erre pendant quasiment 90 minutes seule, sans but, dans les couloirs de l'école, traversant, regardez, la quasi-totalité du campus. Les images dévoilées commencent étrangement aux alentours de 17h30, on n'a pas d'image avant, alors je vous le rappelle qu'elle est censée être partie de l'école, en tout cas c'est ce qu'ont dit ses amis, aux alentours de 14h, 14h30. Christie porte un débardeur noir, un pantalon rayé noir et blanc, des chaussures plates. Elle n'a pas l'air stressée, je dirais plutôt perdue, confuse dans ses mouvements. Ce qui est étrange, c'est qu'à aucun moment, elle ne s'arrête soit pour consulter son téléphone portable, parce qu'à ce moment-là, elle reçoit pas mal de messages, soit pour parler à quelqu'un. On ne la voit à aucun moment en interaction. On n'a même pas l'impression, finalement, qu'elle possède son téléphone portable sur elle. En fait, on a juste en face de nous une jeune fille qui fait les 100 pas. On la voit à un moment donné dans l'ascenseur en train de lire. On la voit des fois simplement appuyer sur les boutons d'ascenseur sans forcément y rentrer. Elle va le faire à 3 reprises. On la voit même à un moment donné pousser le chariot d'un concierge sans raison. Ce qui, moi, me frappe, et vous me donnerez votre avis, c'est que parfois, elle a l'air souriante. On a même l'impression, à un moment donné, qu'elle regarde la vidéosurveillance. Elle se rend aussi sur le toit de l'école, dans la cafétéria, vers 18h47. Elle enlève même ses chaussures, on la retrouve pieds nus. Et elle quitte l'école, définitivement. Vers 18h56, elle passe une dernière fois devant une caméra. À l'extérieur, à 18h59, elle se dirige très certainement, c'est ce que diront les policiers, vers le bord de mer, qui n'est pas très loin de l'école. Pourquoi ces images posent-elles question ? Eh bien, parce que pour certains, la fille que l'on voit sur les images en train d'errer là pendant 90 minutes dans les couloirs, ce n'est pas Shan Yin Lam, mais une actrice qui aurait été engagée par le gouvernement pour montrer que le comportement de l'adolescente ce jour-là était bizarre. Beaucoup disent qu'il y a des différences physiques entre la fille que l'on voit sur les images et la Christie que ses amis connaissent. Notamment, regardez, au niveau des sourcils et du haut du front. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'images qui tournent où on met les deux visages côte à côte pour montrer les différences. On trouve aussi étrange que les vêtements de Christie aient disparu entre le moment où elle est au lycée et le moment où on retrouve son corps. Mais selon l'enquête, c'est ce que j'ai pu trouver, les membres de la famille de Shan, l'équipe du foyer également dans lequel elle se trouvait et ses amis, l'ont tous plus ou moins identifié sur ces images de vidéosurveillance, ce qui a permis de calmer quelque peu les rumeurs. Le seul témoin qui a été entendu dans cette histoire, c'est un chauffeur de taxi qui s'appelle Cho Tai Lai, qui a raconté à la police que Shan est montée dans sa voiture la nuit de sa disparition, donc quelques heures après être partie de l'école, et qu'elle lui aurait demandé de la conduire sur un chantier de construction à côté de la gare de Loas Park, à quelques centaines de mètres d'une promenade. La jeune Shan Yin Lam, donc 15 ans, va devenir le symbole de la répression hongkongaise. C'est son décès, en fait, qui va déclencher véritablement la rumeur selon laquelle le gouvernement tue tous ceux qui s'opposent à lui. Mais les avis sont très partagés concernant le décès de Christy, parce qu'il y a cette question qui arrive sur la table. Est-ce qu'on a affaire ici à un assassinat, comme le prétendent beaucoup de personnes, ou à une noyade volontaire suite à un état de psychose? Ça, c'est important. Parce que, en fait, c'est le fil conducteur d'une enquête qui va être menée, une enquête qui va être assez courte finalement, qui va durer 12 jours. Et à l'issue de l'enquête, écoutez bien, un jury composé de 5 membres va exclure à la fois le suicide et l'homicide comme cause possible de la mort. Durant cette enquête, le tribunal a demandé à un psychiatre s'il était possible que Sean ait sauté à la mer après un épisode psychotique. Ça, c'est la véritable question, au vu aussi du comportement étrange que l'on discerne sur les images de vidéosurveillance. Comportement, et je ne sais pas ce que vous en pensez, qui, moi, me fait penser à celui d'Elisa Lam, vous savez, la fille, renommée la fille du Cecil Hotel, hein, c'est une histoire qui est très connue, vous pouvez retrouver plein de vidéos d'ailleurs sur Internet, il y avait aussi un reportage qui avait été sur Netflix, cette jeune fille qu'on voit dans l'ascenseur et qui a un comportement similaire, j'ai envie de dire, même si celui de Christy est moins agité, et qui est retrouvée noyée, en gros. La psychiatre qui a donc été chargée de l'enquête, qui s'appelle Robin O'Meilly, a rendu donc son verdict, et voici ce qu'elle a suggéré. Elle a suggéré que Sean aurait pu commencer à connaître des premiers stades de psychose en août 2019, soit quelques jours avant sa mort. Et pour étayer sa thèse, elle a cité le père de Sean, qui lui aussi avait reçu un diagnostic de trouble schizoaffectif, hein, je la cite, et que Sean avait de grandes chances finalement d'avoir récupéré ses troubles. La psychiatre a aussi suggéré qu'un patient psychotique a des difficultés de coordination corporelle au cours d'un épisode, ce qu'on verrait sur les images. Le médecin légiste qui a procédé à l'autopsie de Christy lorsque l'on a découvert son corps a lui aussi été appelé. Il a confirmé sa première analyse en expliquant, je le cite, qu'il était probable que la jeune fille se soit noyée, mais il allait un peu plus loin concernant le corps de Christy, expliquant que le corps présentait un niveau de décomposition modéré, ce qui indique que Christy a pu mourir dans les 24 heures suivant sa disparition. Il parle également des vêtements de Christy, vous savez, ces vêtements qui ont disparu. Lui explique que les vêtements ont facilement pu être emmenés soit par le mouvement de la mer, soit par la force des vagues. Par contre, il ne trouve pas d'explication concernant les sous-vêtements, parce que pour lui, ça paraît compliqué que la mer ait pu les emmener. À la fin des 12 jours d'enquête, le jury a donc donné son verdict. Mort suspicieuse, ce n'est ni un suicide, ni un assassinat. Ce qui, vous l'imaginez, laisse place à beaucoup d'interprétations, des interprétations qui sont toujours présentes sur les réseaux sociaux. Le jury a également parlé de ces fameuses images de vidéosurveillance. Pour le jury, c'est clair, la fille que l'on voit sur les images de vidéosurveillance est bel et bien Sean Yin Lam. Sean Yin Lam qui, aujourd'hui, est toujours présentée comme une martyre de la justice hongkongaise. Si vous souhaitez découvrir toutes les images qui concernent cette affaire, rendez-vous dès maintenant sur notre chaîne YouTube Charlie Frigoul.